Pod Courts, le podcast qui prolonge l'échange.
Salut Rodolphe.
Comment
merci
ça va?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Bah, tout va très bien. Tout va très bien. C'est l'été, c'est déjà bien. Bon, à Paris, moi je suis
C'est
à Paris
beau.
actuellement, il fait pas super beau. Le nord de la France n'est pas touché par la période estivale pour l'instant.
C'est vrai, je suis à Grenoble en ce moment chez ma famille et il se trouve qu'il pleut également. Mais bon, ça devrait changer.
Il faut aller dans le sud pour trouver le soleil. Et en Espagne, donc, où tu es basé depuis quelques années? Depuis combien d'années, du coup, tu es en Espagne?
Depuis 8 ans, 8-9 ans maintenant, ouais, vers Valencia, dans le
D'accord.
sud. Maintenant, je me suis relocalisé à Ravea, c'est une petite station balnéaire sympa entre Valencia et Alicante. J'ai habité quelques années à Valencia, dans la grande ville. Et puis voilà, je suis descendu un petit peu plus proche de la mer. Mais là-bas, il fait très beau. Ouais. Là-bas, c'est vraiment, par contre, c'est sympa, ouais.
Pas très très loin de, enfin c'est un tout petit peu en dessous si je dis pas de bêtises, c'est plus un peu plus près d'Alicante, mais pas très très loin de l'académie de Juan Carlos Ferrero où a grandi Carlos Alcaraz.
Oui, exactement. Et c'est même à Ravea, dans la ville où j'habite, c'est où il y a l'académie de David Ferrer,
Oui.
notre ambassadeur de Luxe Tennis avec Martin Hingis. Donc il est de là-bas, on se voit régulièrement. On est vraiment maintenant de la même petite ville d'environ 30 000 habitants. Mais c'est vrai qu'il y a Juan Carlos Ferrero aussi qui est un peu plus bas avec Carlos Alcaraz.
Ok. Bon, on va parler de Luxe Tennis, on est là pour ça, évidemment. On va entrer dans le détail au fur et à mesure de l'entretien du projet. On va essayer d'en découvrir, d'en savoir un petit peu plus sur toi aussi, sur savoir comment tu as eu cette idée, ce projet, comment tu as atterri en Espagne. Mais on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux, toi, nous présenter Luxe Tennis? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste pour ceux qui ne connaissent pas du tout?
Je vais essayer de faire court. En quelques mots, on manage et on gère le tennis pour les hôtels les plus prestigieux du monde. Donc en fait, voilà, on a un contrat de management avec les hôtels pour la gestion du tennis. Et donc on fournit les coachs et on gère tous les programmes, les équipements, etc. En gros, on nous donne les clés du club de tennis qui est au sein de l'hôtel. Et nous, on le gère de la meilleure façon possible, que ce soit aussi en intervenant sur les systèmes de réservation, voilà, comment optimiser les réservations, comment attirer des clients, la promotion, tu vois, le marketing. C'est vraiment, en gros, voilà, dans les hôtels de luxe, c'est vrai qu'ils ont vraiment envie de se démarquer de la concurrence et ils ont envie d'offrir un service exceptionnel à leurs guests, à leurs clients. Et donc, du coup, voilà, ils prennent des entreprises spécialisées dans chaque domaine. Voilà, donc, par exemple, on est très présent aux Maldives. Par exemple, on a 10 hôtels aux Maldives. Donc, là-bas, par exemple, ils ont une entreprise qui s'occupe de la plongée. Donc, ils ont nous pour le tennis. Souvent, ils ont aussi, tu vois, une entreprise pour le spa, ou pour la gym. Donc, voilà, ils ont, par exemple, des fois, un entraîneur de boxe thaï, ou, tu vois, c'est vraiment d'avoir des services comme ça à offrir aux clients pour se démarquer de la concurrence. Et donc voilà, nous on est dans le tennis, maintenant récemment aussi dans le paddle. On a 5 hôtels avec du paddle. Et voilà, en gros.
Ça veut dire que du coup, donc
J'ai résumé.
ces hôtels de luxe qu'on appelle des resorts, c'est ça, hein?
Il y a des resorts, mais il y a aussi des hôtels.
D'accord, il y a les deux.
Il y a aussi des hôtels. Il y a des deux.
Donc ça veut dire qu'ils confient toute la partie tennis et donc un peu padel maintenant, qui confie toute cette gestion à ton entreprise, en fait, c'est ça.
Exactement, exactement. C'est exactement ça, voilà. Eux, en gros, ils ont pas le, dans la plupart du temps, en fait, ils ont pas la maîtrise, l'expérience, les ressources, etc. pour gérer cette partie-là. Ils ont pas la connaissance, en fait, du tennis. C'est des personnes dans l'hôtellerie, donc voilà, ils savent pas, en fait, tu vois, même, c'est bête, mais quel genre de balle acheter, quel genre de raquette, où chercher les coachs, quel programme de tennis faire. On organise aussi des événements avec des stars du tennis. Tu vois, on les aide sur pas mal d'autres aspects. Et c'est vrai qu'eux, ils se déchargent, en fait. Pour eux, c'est vraiment en termes financiers. Pour eux, c'est rien, tu vois, le tennis dans un hôtel. Les hôtels, ils gagnent de l'argent avec les chambres, ils gagnent de l'argent avec le F&B, food and beverage, la nourriture et les boissons. Et tu vois, eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que le service tennis, il soit irréprochable. Et de façon à ce que des clients viennent d'année en année dans cet hôtel grâce au tennis et dépensent l'argent ailleurs, tu vois, dans l'hôtel. Et voilà, et même que certains clients viennent choisissent cet hôtel parce qu'il y a un service tennis. Et voilà, donc eux, ils préfèrent en gros le laisser à des professionnels. Et donc nous, voilà, Luxe Tennis, on s'est mis sur ce créneau, en fait, sur ce marché de l'hôtellerie ultra luxe. Donc on fait vraiment que les hôtels 5 étoiles et palaces. On n'est pas tombé dans les, voilà, dans les 4 étoiles, all inclusive, tu vois, encore. Pour l'instant, je pense qu'on va pas le faire même. Donc on est vraiment sur ce marché de l'ultra luxe. Et donc voilà.
Ça veut dire donc effectivement,
Le résumé.
ce qui est intéressant, ça veut dire qu'ils se déchargent de toute cette partie tennis parce qu'ils n'ont pas les connaissances, comme tu viens de le dire. Et comme tu le disais, ça permet pour eux d'avoir peut-être une nouvelle clientèle parce que certaines personnes vont venir dans leurs hôtels ou dans leurs resorts, pas seulement pour tout ce qu'on connaît de l'hôtel, mais aussi parce qu'il va y avoir une prestation liée au tennis de qualité. Et donc, ça leur apporte une nouvelle clientèle. Donc, l'intérêt pour les hôtels, c'est ça.
Exactement. C'est aussi une nouvelle clientèle. C'est aussi fidéliser leur clientèle actuelle. Voilà, qui ont eu une belle expérience tennis, donc qui reviennent l'année prochaine grâce au service tennis. Et voilà. Et c'est aussi se décharger, quoi. C'est aussi pour eux aussi, c'est un gain de temps. Tu vois, c'est pour la personne qui était en charge du tennis. Des fois, c'est le directeur du sport, par exemple. Souvent, il y a un directeur du sport dans l'hôtel, recreation manager. Et en fait, voilà, lui, il gère un peu tous les sports, etc. Et donc, c'est vrai que s'il connaît rien au tennis, c'est compliqué. Après, il y en a qui connaissent, mais qui préfèrent aussi prendre une entreprise spécialisée. Tu vois, ça arrive aussi que, ça arrive des fois même que l'hôtel ait déjà son coach. On dit, voilà, nous, on a un coach depuis pas mal d'années, etc. Mais on aimerait faire appel à vous pour tout le développement, la stratégie et la gestion. Donc, nous, on garde ce coach-là, on l'embauche sous le tennis et puis on met quelques autres coachs additionnels également. Et on s'occupe de tout le reste, en fait. Il y a aussi toute une partie de développement, etc. Donc, voilà, ouais, c'est le but, c'est de satisfaire les clients.
Alors on va rentrer dans le détail parce que tu parlais qu'est-ce qui s'y passe effectivement les programmes les stars que vous arrivez à faire venir. Mais juste avant pour pouvoir mieux comprendre c'est comment elle est venue l'idée? C'est quoi la genèse? Tu t'es réveillé un matin, tu as eu cette idée, enfin, comment ça s'est passé?
Quand c'est passé, alors en fait, moi j'étais joueur de tennis semi-professionnel, on peut dire, pour ceux qui connaissent un peu le tennis. Voilà, j'ai joué quelques futures, j'ai eu quelques points ATP en France, j'étais moins 15, et puis après, j'ai vite voyagé pas mal, et en fait, j'ai arrêté assez tôt de jouer les tournois, et du coup, j'ai commencé à travailler. Donc, je suis allé à Saint-Barth pour faire un stage. Donc, j'étais en bachelor, en licence, et donc j'avais un stage à faire de 6 mois en entreprise, et j'ai trouvé un club de tennis à Saint-Barth. Voilà, où j'étais en charge un peu du développement dans le club de tennis, je donnais quelques cours de tennis également, etc. Donc je suis allé là-bas, et là j'ai découvert un peu ce milieu, en fait, tu vois, un peu luxe, tennis luxe, un petit peu. Donc j'ai rencontré des familles assez riches, je voyageais un petit peu après avec elles pour donner des cours de tennis à leurs enfants, à leurs familles. Et suite à ça, en fait, j'ai eu une opportunité d'aller travailler dans un hôtel de luxe aux Maldives. Donc, c'était mon associé actuel, Tony Rajobelina, qui était aussi un joueur de tennis semi-professionnel, qui était moins 30, qui a joué la Coupe Davis avec Madagascar. qui étaient dans les pôles France, etc., en France. Donc voilà, on avait un peu, on s'était rencontrés aux États-Unis, on était dans une fac aux États-Unis ensemble pendant quelques mois. Et donc du coup, ouais, voilà pour la petite histoire. Donc lui, il était directeur tennis dans un hôtel aux Maldives. Donc il était coach en fait, il était embauché par une entreprise qui fait un peu la même chose que qui faisait un peu la même chose que nous parce qu'ils ont arrêté. Donc lui était embauché par l'entreprise, il était coach de tennis et il m'a appelé, il m'a dit j'ai besoin d'un deuxième coach pour l'hiver, pendant Noël. Donc je suis allé là-bas aux Maldives avec lui, on a travaillé dans l'hôtellerie de luxe et donc j'ai découvert en fait ce milieu que je connaissais pas vraiment, travailler en tant que tennis coach dans les hôtels de luxe. Et j'avais déjà en fait juste l'expérience avec des familles riches, etc., voyager un peu. Et donc voilà, après ces 2 semaines là-bas, ça m'a, tu vois, ça m'a plu quoi. Les voyages, l'hôtellerie, le tennis, etc., ça m'a vraiment plu. Et en fait, bah du coup, ça m'a donné l'idée tout simplement de créer ma boîte et de faire la même chose. Donc je suis rentré chez moi et j'ai commencé à réfléchir à un nom, un logo. J'ai créé mon site, je me rappelle, sur WordPress, tu vois, tout seul, un peu un site vitrine. J'ai créé le logo avec mon papa, je me rappelle. Voilà le et puis voilà, c'est j'ai créé ça, j'ai lancé ça, j'ai commencé à avoir premier hôtel aux Maldives, du coup dans cet hôtel là après plus tard avec donc très vite en fait Tony est venu dans la société, je pense quelques mois après je lui ai proposé en fait de venir avec moi et qu'on fasse le truc ensemble. C'était un peu grâce à lui parce qu'il m'avait fait venir aux Maldives, donc voilà, je trouvais que c'était normal. Donc je lui ai proposé de venir avec moi et tout de suite on s'est mis tous les deux. On a réussi à avoir un hôtel aux Maldives, deux, trois, quatre. On s'est mis sur les Maldives et après c'est parti comme ça et on a appris en fait sur le fil quoi. On a appris puis maintenant c'est vrai que ça fait 5 ans maintenant, 5, 6 ans et on a 32 hôtels maintenant. On est bien présent en Europe également, en Asie. On a bien explosé, mais voilà comment ça a commencé.
Ah
Désolé,
ben
c'était un peu long.
ben non, pas du tout. Non, c'est hyper intéressant. Là, quand tu parles de la fac aux États-Unis et quand tu parles aussi de ce stage de 6 mois en entreprise à Saint-Barth, là, c'était dans le cadre d'études commerciales. C'était des études.
Ouais, études commerciales, ouais. Moi, j'étais à Grenoble à la base, j'ai fait un DUT Tech de Co, technique de commercialisation à Grenoble, et après ça je suis parti un petit peu aux États-Unis avec une bourse, tu vois,
Ouais.
comme ils font beaucoup, scholarship. Je suis parti un petit peu sur le tard, mais malheureusement je suis allé dans une D2, j'étais pas éligible en D1, donc en fait je suis pas resté très longtemps, j'ai fait un petit semestre on va dire, j'ai rencontré, et donc du coup voilà, c'est là-bas que j'avais rencontré Tony, là-bas, on se connaissait un petit peu du circuit français, tu vois, on avait joué les championnats de France universitaire et tout ça. Lui, il était à Montpellier, moi j'étais à Grenoble. Moi j'étais au CNUT à Grenoble après, Centre national universitaire de tennis. Et donc voilà, et ouais, et Saint-Barth, c'était pour mon stage, ouais, pour mon stage au sein de mes études dans le commerce aussi également, ouais, marketing, commerce.
Du coup, ce qui est intéressant, enfin, ce que je trouve, ce qu'on peut relever dans ton parcours, c'est que il y a évidemment le tennis. On va y revenir aussi parce que j'aurais deux, trois questions à te poser aussi sur ton parcours. Ça peut être aussi intéressant de te connaître un petit peu plus sur ton parcours tennistique. Mais là, quand tu faisais tes études de commerce, tu n'avais pas forcément en tête de travailler dans le tennis. Ça aurait pu être dans n'importe quel, dans un autre domaine où tu avais de toute façon envie de lier les deux depuis toujours.
C'est une bonne question. Je me rappelle que non, j'ai toujours voulu lier les deux. Je voulais, quand je faisais des études, dans ma tête, je voulais essayer de devenir, tu vois, directeur sportif d'un club de tennis. Je voulais être dans le tennis, mais pas forcément rester tennis coach très longtemps. C'était pas franchement ma vocation. J'aimais bien, mais ouais, je voulais faire ça. Ouais, je voulais être du côté, toujours dans le tennis. Toujours dans le tennis quand même, et lier les deux. Je me rappelle quand j'avais fait mon stage, ouais, quand j'ai fait mon stage, donc j'avais l'option d'aller à Saint-Barth, donc j'avais postulé pour Saint-Barth, après j'avais été accepté, et en parallèle j'avais l'option de travailler chez Aide à Grenoble parce que c'est, je pense que le siège est là-bas de Aide, et du coup j'avais postulé, j'avais fait quelques entretiens pour être, tu vois, pour bosser avec Ed et commencer un peu une voie là-dedans. Donc là, ça aurait été complètement différent. Si j'avais été accepté, je serais peut-être resté dans Ed, tu vois, j'aurais peut-être été commercial là-bas, dans les clubs, je sais pas trop, tu vois, mais j'aurais peut-être pris une carrière avec Ed. Finalement, je suis parti à Saint-Barth, j'ai choisi de partir à Saint-Barth, faire l'expérience. Et puis c'est là que j'ai, voilà, que ça a un peu changé, tu vois, ma vision des choses. J'avais envie plus d'être, tu vois, auto-entrepreneur, créer mon truc. Donc ouais. Ouais, après les parcours, de toute façon, c'est. Mais non, j'ai toujours voulu faire tennis, business tennis, quoi, entre guillemets. Rester dans ce milieu.
C'est intéressant parce que ça veut dire que c'est évidemment et finalement pas un hasard et tu nous l'as raconté. Et du coup, j'ai presque envie de bifurquer tout de suite là-dessus. Et évidemment, on va revenir dans 5 minutes sur Luxe Tennis que tu nous expliques un peu plus
Non,
dans le
pas de
détail.
souci.
Mais j'ai presque envie de te poser une ou deux petites questions sur toi parce que c'est toujours intéressant de savoir de connaître le parcours de ceux qui créent ce genre d'entreprise. J'ai regardé un petit peu. Hein, faut savoir que Johan, je parle ici pour ceux qui regardent ce podcast, tu as une fiche ATP. On peut voir que tu as fait une dizaine, je crois, une dizaine ou une quinzaine de tournois futurs avec un classement aux alentours de 1300, je crois, avec quelques points ATP, 1300 en simple. Est-ce que, question peut-être un peu basique, mais est-ce que quand tu as commencé le tennis, j'imagine quand tu étais petit, et que tu as vite compris que tu avais un bon voire un excellent niveau, est-ce que tu as eu l'ambition à un moment d'en faire un métier et de devenir pro?
Bah ouais, ce serait mentir que dire l'inverse, hein. Carrément, quand je jouais au tennis, je voulais être pro pendant un moment. C'est vrai que j'ai commencé un peu sur le tard. Je suis d'un petit village vers Grenoble et voilà, trois enfants. Je jouais dans le club du village, je me rappelle, jusqu'à 14 ans. Tu vois, je jouais 2 fois par semaine, quoi. Je jouais 3 heures par semaine jusqu'à 14 ans. Je faisais du foot aussi un petit peu. Et après, je suis parti dans un autre club un petit peu mieux ici. Donc là, je m'entraînais 3 fois par semaine après l'école, mais tu vois, j'étais en seconde, je me rappelle, je finissais à 18 h le soir, j'allais m'entraîner après. Enfin, tu vois, j'ai pas vraiment eu la voie d'un joueur professionnel jusqu'à assez longtemps. Et après, j'ai eu de la chance. Mes parents, etc., voilà, ils ont réussi à me payer un sport-études pendant 2 ans à Avignon. Donc là, de 16 ans à 18 ans, je me suis entraîné comme un pro. Là, par contre, tu vois, j'ai fait horaire aménagé, même j'ai fait le CNED sur mon année de terminale, donc c'était ma première et ma terminale. Et là, j'ai joué 5 heures par jour, physique, tennis, etc. Et là, du coup, je suis tout de suite monté, tu vois. Je devais être à 16 ans, je pense, j'étais classé, je pense, 15 ou 4-6. 15, je pense. Et après, je suis monté de 15 à 1-6-0 en 2 ans. Et après, j'ai fait 0-15 en 3 ans. Donc, tu vois, en l'espace de 5 ans, j'ai fait 15-15, quoi, quasiment. Et du coup, là, après, ouais, après, là, je me suis dit, bah, je vais commencer les tournois futurs et essayer. Mais c'est vrai qu'après, bon, j'étais à l'université, les amis, pas un seul dans le milieu du sport. Il était déjà un peu tard, entre guillemets, tu vois, je voyais ceux qui avaient mon âge, ils étaient déjà très haut. Mais j'ai essayé, ouais. Pendant un moment, ouais, je me suis dit, allez, je le tente et tout, etc. Mais c'était une bonne expérience. J'ai vu ce que c'était un petit peu les tournois futurs. J'ai vu ce que c'était un peu de voyager pour le tennis. J'ai fait quand même pas mal de tournois français aussi, quand même. Tu vois, quelques CNGT, quelques bons tournois français. Donc, j'ai quand même joué des bons joueurs. J'ai quand même eu la chance de jouer des joueurs qui étaient 200 mondial, etc., dans les tournois futurs, voire plus. Donc, du coup, c'était sympa, quoi. C'était une belle expérience. Mais après, j'ai vite compris. Tu vois, j'ai vite compris que j'avais 25 ans, être compliqué. Donc, voilà, après, j'ai préféré bifurquer et pas m'enliser là jusqu'à 33 ans, essayer de faire des futurs et être peut-être 500, 600 mondial. Voilà, j'ai bifurqué assez vite quand même.
D'autant qu'on sait, parce qu'on en parle, enfin, en tout cas pour ceux qui vivent, qui s'intéressent au monde du tennis, que quand on n'est pas dans les 150, les 200 premiers mondiaux, c'est très difficile de vivre de cette passion-là. Et donc effectivement, on comprend le
C'est
choix de
sûr.
milieu.
C'est sûr, après j'ai eu un enfant en plus assez jeune, enfin, j'avais 26 ans, donc bon, tu vois,
Ouais.
ça a scellé un peu tout aussi. Voilà, j'ai eu envie d'avoir de la stabilité, voilà, de créer quelque chose, d'avoir de la stabilité. C'était plus vraiment viable de toute façon de voyager dans tous les cas, mais j'avais déjà arrêté un petit peu avant quand même. Mais non, bonne expérience, je suis content quand même d'être arrivé quand même à un niveau correct. Ça m'a permis de faire par exemple sparring partner à Roland-Garros pendant 5 ans. Et Paris-Bercy aussi un petit peu. Donc, du coup, pendant 5 ans, j'étais à Roland, tu vois, je jouais avec tous les pros. Je me rappelle que j'ai joué avec Raphaël Nadal, Son entraînement du samedi pendant 1 heure, juste avant la finale pour sa décima, tu vois, pour la 10e victoire à Roland. Donc le
Oui.
samedi, j'étais là, le stade était plein, j'ai joué avec lui pendant 1 heure. Donc, tu vois, j'ai même plein de trucs comme ça dans ma tête avec des pros. Donc ça m'a permis de vivre quand même quelque chose de sympa, de m'être entraîné, tu vois, même si je suis pas arrivé pro, ça m'a ouvert des portes dans tous les cas. Même le tennis, je pense que j'aurais pas pu le faire si j'avais pas joué un bon niveau de tennis. Parce que ça permet d'avoir pas mal de contacts aussi pour après. En fait, j'ai toujours eu aussi pas mal de plans à droite, à gauche, un petit peu comme ça. Donc, j'en avais des potes un peu toujours. J'y allais moi. J'ai toujours eu un peu des plans comme ça, un peu de coaching, un peu de. Et donc, du coup, ça m'a aussi donné cette idée avec le tennis, tu vois. Après, j'envoyais au début, j'envoyais mes amis, en fait, dans les hôtels. Et après, j'ai compris qu'il fallait pas trop mixer les deux quand même. Amis, boulot, ça peut être compliqué.
Ok. Ouais, effectivement, le fait d'avoir côtoyé le monde professionnel a sans doute été, comment dire, un premier pas pour la création de Luxe Tennis. Alors justement, on va en parler. On va parler notamment, je crois qu'on appelle ça des cliniques. Les cliniques, quand c'est ça, hein, quand il y a des stars qui viennent, c'est comme ça.
C'est vrai que ouais, ils utilisent ça en anglais, ouais. Ils utilisent ce mot. C'est des cours de groupe, en fait, un peu.
D'accord. On va en parler, mais juste avant, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment ça se passe dans un hôtel? Là, une fois que vous êtes entendu avec un hôtel pour gérer la partie tennis, quelles sont les prestations qui sont proposées dans le détail? Est-ce que c'est des leçons individuelles, c'est des leçons de groupe? Parce que vous avez donc tout un panel de coachs en plus, hein, qui viennent travailler dans cette trentaine d'hôtels avec lesquels vous êtes en partenariat.
Oui, exactement. On a les coachs qui sont basés soit à l'année, soit c'est du 6 mois, 8 mois, c'est saisonnier. Tu vois, par exemple, aux Maldives, c'est octobre, fin avril, en général. Il y a une période plus basse où c'est la saison un peu des pluies, etc. Donc, voilà. Après, les programmes, ça dépend un petit peu des hôtels, mais en fonction de la clientèle. Et si c'est à l'année ou si c'est saisonnier. Mais c'est principalement des cours privés, en fait. Après, on met en place, nous, pour driver, tu vois, on fait venir on organise des petits tournois, on organise des animations, tu vois, si c'est Pâques, on va organiser des animations en relation avec Pâques, avec Noël pour les enfants. Donc, tu vois, on essaye de booster, tu vois, en organisant aussi des sessions gratuites pour les enfants et les adultes par semaine, tu vois, pour faire venir du monde sur les terrains. Et après, c'est au coach d'être bon. On lui donne les outils, on lui donne des stratégies, mais c'est à lui d'être bon après et en fait, de transformer, en leçons privées, en fait. C'est là qu'on gagne de l'argent, c'est quand il y a des leçons privées. C'est là que le coach gagne de l'argent, que l'hôtel et que nous. Donc, voilà, non, c'est vrai que les programmes, ça dépend un petit peu des hôtels, comme je disais, de la clientèle, mais c'est principalement des leçons privées, des cours de groupe. Voilà.
Les coachs, comment vous les recrutez?
Alors, on a vraiment pas mal de. Pas mal dans maintenant on commence à avoir pas mal de connaissances, pas mal de une grosse on commence à avoir une belle base de données aussi avec pas mal de coachs. Au début c'était les contacts de contacts, etc. Après voilà, dans la base de données, donc maintenant on a pas mal de coachs, et on a aussi quelques partenaires qui ont des contacts, voilà, qui sont un peu dans ce milieu-là, voilà, qui nous aident également. Maintenant, on a une ressource humaine, voilà, manager qui s'occupe de ça. On a aussi une autre personne qui s'occupe un peu plus du recrutement, des formations et du suivi. Mais c'est le gros point, où il y a du challenge, quoi. Trouver des coachs, des bons coachs, tu vois, tout le temps. Il y a des rotations. T'es pas à l'abri qu'il y en ait un. Voilà. Je veux dire qu'il y a un problème familial, il doit rentrer, les trucs de visa, etc. Nationalité, il faut que ce soit approuvé par l'hôtel. Non, les coachs, c'est le gros point, qui est assez compliqué.
Parce que là, on parle de coach, c'est pas des coachs lambda. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va sur le site Luxe Tennis, on se rend compte que quand on voit le catalogue des coachs, il y en a, je sais pas si c'est l'ensemble ou une majorité. En tout cas, là, il y en a certains qui sont des joueurs qui ont été pros.
Ouais, la majorité. Non, dans tous les cas, ils ont tout le temps un niveau. Donc, tout le temps un haut niveau, c'est niveau, tu vois, niveau ATP, on l'appelle, mais voilà, ces niveaux, ils ont tous, la plupart, ils sont tous négatifs, quoi, en règle générale. Il y en a qui sont moins quand même, on va pas se mentir sur certains, mais qui ont une belle expérience d'hôtel ou une belle expérience, tu vois, commerciale ou communication, etc. On essaie vraiment de mettre le bon coach au bon endroit. On s'est rendu compte que des fois, tu envoyais un coach ATP et le mec, il était 300 mondial. Il arrive dans l'hôtel et en fait, bah, peut-être il parle pas très bien anglais, peut-être il est un peu timide, peut-être il a eu l'impression, peut-être c'est un peu une diva, je sais pas, tu vois, et ça se passe pas très bien en fait. Faut mieux mettre un mec un peu plus débrouillard, un mec qui soit commercial, qui parle bien anglais, etc. Lui, il va driver du business, il va s'adapter. Tu vois, faut quand même réussir à s'adapter. Donc en fait, on s'est rendu compte que bien sûr le niveau c'est très important et tous nos coachs jouent bien. De toute façon, ça c'est quand même une des priorités. Faut quand même qu'ils jouent bien. Mais après, à côté de ça, on va pas forcément prendre l'ancien 300e mondial, contrairement à un mec qui joue un 6. Pas forcément en fait. Ça va dépendre de ses qualités aussi humaines et son expérience professionnelle.
Et ça veut dire que ces coachs, ils sont envoyés parce qu'ils ne sont pas résidents dans l'hôtel pendant. Enfin, ils sont envoyés pour combien de temps?
Ouais, bah entre 3 mois, 6 mois, 1 an,
Ah, quand même, d'accord.
2 ans, 2 ans. Ouais, ça dépend. Ouais. Après, on a des coachs qui voyagent, tu vois, c'est pas mal ça. On a des coachs qui, tu vois, on a des coachs, ça fait 5 ans qu'ils sont avec nous. Ils vont en Thaïlande 6 mois, après ils vont en Grèce 6 mois, ils partent 3 mois au Mexique, ils font 6 mois là. Tu vois, donc il y en a qui aiment bien voyager, qui aiment bien changer. Donc, vu qu'on a commencé à avoir beaucoup d'hôtels, ils ont la possibilité, voilà, de changer un petit peu comme ça. Il y en a qui aiment bien rester, tu vois, tout le temps dans le même hôtel. Il y en a qui aiment bien se faire, bah, allez, moi, je me fais juste avec vous, les gars, juillet, août, dans tel hôtel. Après, le reste de l'année, j'ai une autre activité. Donc, voilà, ça dépend un petit peu. Mais nos contrats, c'est pour nous, on gère le tennis à l'année, quoi, pour les hôtels. On ne gère pas juste pour 2 semaines comme ça.
Oui, d'accord, c'est ça. Donc ils sont vraiment ils sont engagés quasiment du plein temps, quoi.
C'est du plein temps, ouais. C'est du plein temps pour la majorité des coachs, ouais.
Et alors là on parlait du coup de j'allais dire de ce qui est le quotidien de Luxe Tennis avec ses coachs qui donnent des leçons privées dans différents hôtels de luxe. Alors quand on va sur le site, on est aussi forcément, l'œil est attiré par la présence de stars. En fait, on va dire le mot hein, de stars de tennis, soit soit anciennes stars qui ne jouent plus actuellement sur le circuit, ou même certaines stars qui jouent toujours, qui sont sur le circuit. J'ai regardé un petit peu. Quand on va sur le site, on voit par exemple que Martin Hingis, Mary Pierce, Michael Chang, David Ferrer, donc tu as parlé, donc qui est l'ambassadeur de Luxe Tennis, Iva Maioli, Carlos Alcaraz ont travaillé avec vous. Et on voit aussi sur le site, en prévision, de nouveau Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Garbiñe Muguruza. Alors, en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que fait Luxe Tennis avec tous ces champions et ces championnes?
Alors, ouais, on a démarré ça, je pense, il y a 2 ans. Ça s'appelle donc Luxe Tennis Star Event. Donc, en fait, c'est un nouveau service qu'on propose aux hôtels. Donc, je suis en charge de ça. Principalement, je m'occupe des Star Events et aussi, bien sûr, de la stratégie du développement et puis de un peu de tout. Mais voilà, je suis vraiment en charge de ça, des Star Events. Et donc, du coup, bah, l'idée, c'est de proposer, en fait, aux hôtels. Voilà, c'est toujours pareil, se démarquer de la concurrence, fournir un service exceptionnel aux clients, donc avoir la possibilité de jouer avec des stars du tennis actuelles ou des anciennes stars du tennis dans l'hôtel. Donc voilà, on met en relation, voilà, je m'occupe de, on trouve des stars qui veulent aller passer en gros des vacances, tout frais payé bien sûr dans les hôtels. Et bah, chaque deal est différent avec les stars. Donc voilà, l'idée c'est de trouver un deal. Et qui voilà de faire profiter les clients de l'hôtel qui puissent jouer avec des stars de tennis. Donc on fait venir aussi des clients qui nous suivent un petit peu dans les hôtels qui ont envie de jouer avec ces stars. Donc ouais, on a eu Michael Chang l'année dernière. On a organisé en 2022 18 events avec des stars, et cette année on va être sur la même base à peu près. On va être sur la même base cette année aussi, voire un peu plus. Et ouais, c'est énorme. Ouais, l'année dernière, on a eu les deux numéros 1 mondiaux. On a eu Alcaraz et Iga Swiatek. Cette année, on a encore Carlos Alcaraz. C'est en train d'être finalisé là. On est dans les contrats. Bientôt, on va communiquer l'endroit. On a Alexander Zverev qui a déjà confirmé pour Patina aux Maldives. On avait Mary Pierce aussi là aux Maldives. Martina Hingis, en ce moment même là, ce week-end, elle est à Interalpen en Autriche. un super bel hôtel en Autriche, et à mon associé Tony qui est là-bas en ce moment voilà, pour voir que si tout se passe bien, et puis aider un petit peu l'équipe là-bas et les coachs. Donc elle va aller là-bas pendant une semaine, tu vois, Martina Hingis. C'est aussi notre ambassadrice, donc on a deux ambassadeurs, Martina Hingis et David Ferrer. Et puis voilà, elle joue avec les clients, on organise des cours de groupe, des cours privés, elle fait un petit meet and greet cocktail, donc elle discute aussi avec les gens sur voilà, sa carrière, sur sa vie, etc. Donc c'est sympa, ouais.
Alors, même si comme tu l'as dit, on l'imagine, les deals sont différents en fonction de ce que peuvent donner les joueurs et les joueuses. Par exemple, à Martina Hingis, qui est en Autriche, elle va donner quoi, 1 heure de cours par jour. Ça se passe comment? Et puis c'est une fois qu'on est comment les clients prennent contact en fait pour pouvoir avoir cette leçon privée. Enfin, comment ça se passe exactement?
Martina Hingis, là, ouais, je pense qu'elle joue à peu près, peut-être un peu plus, peut-être 1 heure et demie par jour à peu près. J'ai pas le programme sous les yeux, mais c'est environ ça. Et donc, du coup, bah, nous, en fait, on communique donc avec la directrice marketing. On fait, tu vois, les flyers, les brochures, on se met sur leur site internet. Ils font de la pub sur les réseaux sociaux. Ils font une press release qu'ils envoient dans différentes agences pour faire venir des clients pour jouer avec Martina Hingis. Tu vois, ils envoient emailing aussi à leurs clients. Pour juste voilà qu'ils soient au courant. Et après, sur place, bien sûr, il y a des affiches qui sont imprimées, qui sont mises sur les télés, etc. Donc après, voilà, les clients arrivent dans l'hôtel. Donc soit on a quelques réservations en avance avec des clients qui viennent pour l'événement, tu vois, qui ont vu ça sur la toile ou je ne sais où, et qui réservent leur chambre d'hôtel. Soit voilà, ils le voient sur place quand ils arrivent à l'hôtel, et ils disent: ah bah ouais, bah, je vais prendre cette opportunité. Et dans ce cas-là, ils réservent avec comme une leçon normale, en fait. Soit ils appellent le coach, soit c'est le coach qui gère, soit ils appellent le service réservation, soit le concierge. Donc voilà, de façon très simple à l'intérieur de l'hôtel. On a pas mal d'événements qui sont simplement pour les clients hôtels. Donc il faut résider à l'hôtel, faut avoir pris une chambre. Mais on a quelques événements aussi qui sont ouverts à l'extérieur. Par exemple, on avait David Ferrer le mois dernier à la Residencia à Mallorca. Tu pouvais très bien te prendre un petit Airbnb à côté et venir jouer avec David Ferrer. C'était même pas cher. En plus, je crois qu'on avait mis pour pas mal de monde, etc. Et que tout le monde soit content, vu que c'est une île aussi. C'est un peu plus compliqué. Je pense que c'était 110 euros, tu vois, le cours de groupe avec David Ferrer pour 1 heure, avec 6 joueurs max ou quelque chose comme ça. Donc, tu peux quand même aller voir David Ferrer, jouer avec lui pendant 1 heure en cours de groupe pour 100 euros, quoi. Donc, il y a aussi quelques events. Michael Chang, pareil. Des clients extérieurs qui sont allés jouer avec Michael Chang à Evian Resort, s'endormir à l'hôtel. Donc, ouais, on essaie d'offrir aussi ça pour certaines personnes, en fait, pour des locaux, la majorité du temps, qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui sont fans de tennis. Donc, on réserve une grosse partie pour les clients hôtels quand même. Et puis on libère quelques places, tu vois, pour les locaux qui sont fans de cette personne, du tennis en général, et que voilà, tu vois, ça arrive jamais, quoi. T'habites à Evian, t'as Michael Chang, il est là à côté, tu peux aller jouer avec lui pour pas trop cher, tu vois, c'est une fois dans ta vie, quoi. Donc on essaye aussi de faire plaisir aussi un petit peu aux locaux.
Et en plus, si j'ai bien compris, c'est peu importe le niveau, on peut prendre une leçon, même si on est
Bien sûr.
débutant.
Bien sûr, ouais. Bien sûr. Pour tout niveau. Ils ont l'habitude, quand tu as eu ce niveau, tu peux t'adapter. Et puis, ouais, c'est quelque chose. Après, tu repars avec voilà, ta photo, tu as discuté un petit peu avec, ils te signent ta casquette ou ton polo. Pour les jeunes aussi, c'est sympa, tu vois. Donc, ouais, c'est une expérience, en fait. C'est une expérience, c'est un service additionnel. Et puis, pour nous, ça nous fait une belle pub, tu vois. Alors c'est ça, parce que pour nous, voilà, c'est vrai que d'avoir tous ces pros, toutes ces stars qui parlent de nous sur les réseaux sociaux, etc., ça fait un peu boule de neige. Les hôtels aussi le voient et ont envie d'avoir ce service. Donc ils nous contactent. Voilà, après c'est pas mal de taf de mettre tout ça en place. Mais je pense que c'est pour ça qu'on a un petit peu explosé, ouais.
C'est déjà arrivé qu'il y a eu un petit souci comme ça. Je sais pas, un client qui a dit, mais moi j'avais compris que j'allais avoir une leçon de tennis avec Martin Hingis, mais après on allait boire un apéro.
Ouais, des fois il y a des petits, franchement pas trop, mais une fois, ouais, il y a eu un petit couac, en fait, Et en fait, ouais, la star était sympa, elle restait plus longtemps sur le terrain, mais elle devait faire une heure de moins. Et en fait, ça s'est enchaîné. Et puis, il y a eu un petit couac, ouais, sur la communication. Ça peut arriver. Heureusement, la star a été sympa, a joué le jeu. Mais il y a eu un petit moment, tu vois, un peu de surprise et un petit peu, voilà. Mais ça s'est bien passé quand même. En général, ça va. La chance, c'est que c'est dans des hôtels de luxe, tu vois. Donc, en fait, il y a ce côté exclusivité, privacité, etc. Donc, les stars sont assez bien, quoi. Tu vois, c'est pas dans un club lambda. Si je fais venir ici dans mon club de village, tu vois, Martin Hingis, c'est plus difficile à gérer, quoi. T'as des gens de l'extérieur tout le temps, etc. Là, quand même, c'est intimiste, tu vois. C'est vraiment, y a pas trop de monde en général, donc ça se passe bien, quand même. Ça se passe bien, ouais.
Ces stars, elles viennent, comme tu le disais, je crois, si j'ai bien compris, elles viennent elles font ça pendant une heure ou deux, peut-être par jour, mais en fait, c'est leur lieu de vacances. Elles viennent une semaine en vacances à cet endroit-là.
Voilà, exactement,
Et alors, tu nous as expliqué tout à l'heure que quand tu avais, que ton parcours, toi, de tennisman, de joueur de tennis, pro ou semi-pro, t'avais permis de rencontrer des gens, t'avais été sparring partner aussi, donc, sur des grands tournois comme Roland-Garros, tu as pu croiser, jouer avec Nadal, etc. Est-ce que ça fait partie, des éléments qui te permettent aujourd'hui de contacter ces champions et ces championnes? Ça n'a rien à voir. Et derrière, cette première question, il y en a une deuxième, c'est comment vous les contactez en fait? Comment on fait venir, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev dans ces hôtels? Quels sont les liens que vous avez avec toutes ces stars?
Alors, du fait d'avoir fait sparring à Roland, c'est sûr qu'en fait, si tu veux, ça m'a. J'ai pu un peu les côtoyer, les voir, etc. Donc, si tu veux, je me suis senti moins. Ah, ils sont inaccessibles, tu vois. Comme si tu les vois que à la télé et t'as pas joué au tennis un peu semi-pro et t'as pas été, tu les as jamais vus et tu es un peu loin de tout ça, ça va te sentir inaccessible, tu vois. Tu sais pas comment les. Tu vois, tu sais pas en fait. Si c'est possible de leur parler, comment est-ce qu'ils vont réagir, comment aussi les contacter. Et du fait de les avoir vus pendant 5 ans, etc., vraiment tout le temps à Roland et tout, je me suis dit, ouais, en fait, je pense que les mecs, ils vont être intéressés, tu vois, en fait, la majorité, ils sont quand même cool, ils sont assez humbles aussi, tu vois, et ça dépend un peu, mais voilà, j'ai senti que ça pouvait se demander, tu vois, qu'il y avait peut-être un créneau et tout. Donc en fait, ça m'a donné confiance, on va dire. Et après, ouais, après, dans les contacts, ça dépend, chaque star, tu vois, il y en a, j'ai le contact en direct, d'autres, je passe par des managers, par des agents, tu vois, des connaissances, qui mettent en contact, etc. Donc, voilà, après, petit à petit, après, tu fais de plus en plus de contacts. Au début, c'était un peu plus compliqué, bien sûr, c'est pour ça aussi qu'on a pris David Ferrer et Martina Hingis. Tu vois, c'était la stratégie. Je me suis dit, on va prendre deux ambassadeurs connus. Donc, qui on a payé, etc., qui sont l'image un peu de la boîte actuellement. On a fait deux programmes aussi, Martin Hingis et David Ferrer, deux programmes vidéo avec eux qu'on met en place dans les hôtels. Donc, les clients hôtels, dans tous les hôtels du tennis, ils peuvent en fait voir les conseils techniques et les exercices de David Ferrer et Martin Hingis. Tu vois, les coachs ont un iPad, ils voient les exercices et en fait, les coachs reproduisent les exercices qu'on a mis en place avec David Ferrer et Martin Hingis. Et en fait, d'avoir, je pense, aussi ces deux ambassadeurs associés à la boîte, ça a donné confiance aussi aux autres stars. Tu vois. C'est pas juste Luxe Tennis, tu vois. C'est Martin Hingis, elle le fait, David Ferrer, il le fait, c'est les ambassadeurs. Donc, tout de suite, ça a donné un peu du poids, je pense. Donc, on a commencé à le faire avec eux. Et après, bah, d'autres nous ont contactés, en fait, aussi, tu vois, sur Instagram, par mail ou des agents ou quoi. Je reçois des emails, tu vois, on reçoit des emails.
Ah,
Par exemple.
c'est parfois les agents qui te contactent toi-même parce qu'ils ont vu que
Ouais.
certains joueurs, champions, championnes,
Exactement.
étaient avaient fait pas travaillé avec Luxe Tennis et du coup, ils proposent également leur service, quoi.
Exactement, ouais. Exactement. Donc pas mal d'agents, mais même des pros en direct sur Instagram, quoi. Des
Ah
pros
ouais,
sur
c'est incroyable.
Instagram qui envoient des messages privés en disant, ah, moi aussi j'ai envie de partir là-bas, est-ce que vous avez quelque chose pour moi? On me met en contact, tu vois, on met en contact d'autres pros qui donnent les messages. Je reçois des WhatsApp, tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu un message de, tu dois le connaître, un ancien joueur de double. Bon, bien sûr, il n'y a pas Rafael Nadal qui m'écrit des WhatsApp pour repartir en vacances, mais il y a quelques personnes, tu vois, Nenad Zimončić,
Ah bien sûr, ah
joueur de double,
bah oui.
qui vient de m'écrire pas mal de messages, là, il faut que je lui
Numéro un
réponde.
en double, hein.
Il était
La
numéro
période
un.
de Novak Djokovic.
Ouais. Et il y a, par exemple, là, il y a un agent qui s'appelle, je ne sais plus son nom, l'agent, mais elle m'a contacté pour me dire qu'elle a deux joueurs. Elle a Julia George, je crois que c'est une Allemande,
Ouais.
qui était dans ce top
Trevor
10.
Gasse.
Ouais, et Kulov aussi, joueur de double qui est numéro un
Ouais.
mondial, je pense, maintenant.
Ouais, c'était
Donc,
cool,
eux,
ouais.
tu vois, et qui sont ensemble, qui sont en couple. Donc, l'agent m'a contacté. Et donc, là, j'ai organisé un deal. Ils partent à Jumeirah aux Maldives en novembre. Je l'ai pas encore, on n'a pas encore mis sur le site, pas communiqué, mais là, on a finalisé le deal, tu vois. Et c'est l'agent qui m'a contacté en direct pour les deux.
D'accord.
Ouais, petit à petit. Au début, c'était un peu dur, mais maintenant, c'est un peu plus simple. On a plus de fluidité,
C'est
on va
un
dire.
cercle vertueux. On imagine que plus il y en a, plus finalement le luxe tennis se fait connaître et plus les joueurs, les joueuses, les agents en parlent entre eux et ont
Exactement, ouais.
envie de participer.
Ouais, puis les stars ouais, voilà, les stars entre elles, tu vois, ils se connaissent. Donc, tu vois, quand un tel met une photo sur Instagram en disant merci Luc Tennis pour le séjour, etc., c'était top, bah, peut-être qu'il y a cinq personnes, cinq amis qui sont aussi des stars du tennis qui demandent comment est-ce que tu as eu le deal. Donc, après, voilà, c'est ça, c'est un cercle vertueux.
Et ça, tu l'aurais imaginé quand t'as créé Lux Tennis il y a 5 ans, c'est-à-dire imaginer que des joueurs et des joueuses eux-mêmes te contactent pour venir en vacances dans les hôtels avec lesquels tu travailles, ça paraît fou, mais.
Non, ouais, non, franchement, non, on n'avait pas imaginé ça. Tu sais, après, tu fais marche par marche, en fait, dans la boîte, et tu essayes d'avoir. En fait, il y a quelque chose aussi, je viens d'y penser maintenant, qui a fait que j'ai pris tous ces contacts aussi, c'est que pendant le Covid, c'est nous quand même, pendant le Covid, pas de chance, quoi. On monte la boîte, 2 ans après, on se prend le Covid, tous les hôtels fermés, on ne peut plus travailler, en fait. Heureusement, on a un business model où on n'a pas de risque, donc on ne perdait pas d'argent, mais on ne pouvait pas travailler, tu vois. Donc, du coup, pendant cette période de Covid, j'ai une idée, on a créé Imit Star, ça s'appelait, un E, tu as tiré Imit Star. Et donc, en fait, je proposais des services, on mettait sur le site et tout, on proposait en fait aux clients de pouvoir discuter en vidéo call avec des stars du tennis
Ah
pendant
ouais.
le Covid. Tu vois, ils étaient chez
OK.
eux, mais en fait, et juste après, en fait, mais en fait, on n'avait pas les ressources, les moyens et tout, tu vois, je le faisais moi avec mon associé pendant le Covid, un peu pour passer le temps, un peu, j'ai l'impression, et essayer des autres choses. Mais on n'avait pas, tu vois, le truc, le site de réservation, on n'avait pas mis les moyens, tu vois. Et donc, en fait, on avait les Bryan Brothers sur le site, tu vois, on avait pas mal de pros comme ça. On a trouvé quand même pas mal, tu vois, je pense une dizaine, quinzaine, avec mon ami Hugo Nice, qui est joueur de double, qui m'avait un petit peu aidé là-dessus, je me rappelle, à trouver des stars et tout. Et donc, du coup, on avait lancé ça. Et en fait, on proposait, bah, soit t'envoies ce qu'ils font maintenant, tu vois, soit t'envoies un message personnalisé pour ton anniversaire, soit tu pouvais faire un appel vidéo, et voilà. Et donc, en fait, ça m'avait permis pendant le Covid, du coup, de mettre là-dedans dans contacter des stars. Et donc, après, dès que c'est reparti, on a arrêté ça. Dès que le Covid est parti, on a arrêté ça. On était en train de se brûler les ailes avec d'autres choses. Donc, du coup, on a arrêté ça vite. Mais j'avais du coup gardé quelques contacts, quoi.
Ouais, ça t'a permis d'avoir fait un premier pas vers les contacts pour la suite
Voilà,
directement dans les hôtels.
exactement.
D'accord. Pour conclure l'entretien, juste pour parler un peu de l'avenir et du business plan, là tu disais que vous travaillez avec 32 hôtels de luxe, hein, si je dis pas de bêtises.
Je pense, ouais, je pense à peu près, parce qu'en fait, ouais, je pense 32 à 33 maintenant.
Et c'est quoi la suite pour Lux Tennis? Est-ce qu'il y a un objectif d'un nombre d'hôtels et vous en avez certes, il y en a certains que vous avez spotés avec lesquels vous avez envie de travailler absolument. Ou est-ce que, donc ça c'est une première question, est-ce qu'il y a un chiffre à atteindre? Et autre question, est-ce qu'il y a d'autres objectifs, d'autres ambitions en parallèle, d'autres peut-être concept que vous avez envie de développer. Voilà, comment on peut voir l'avenir de Lux Tennis là à court ou moyen terme?
Faire attention à ce que je réponds.
Ouais.
Là, en termes de nombre d'hôtels, on va pas aller. Là, on pourrait s'arracher. Si on s'arrache, on va chercher 50 hôtels. Je pense maintenant qu'on a la crédibilité, la marque et tout. Mais l'idée, c'est plus ça maintenant. C'est d'essayer d'aller chercher les gros hôtels. Et c'est compliqué, tu vois. Des hôtels à 15 cours, 20 cours. Donc ça, c'est beaucoup aux États-Unis. Donc là, on est en train de voir aux États-Unis un petit peu, aux Caraïbes, aussi en Asie, etc. En Europe, il n'y en a pas, tu vois. En Europe, on peut dire qu'on est leader maintenant de ce marché parce qu'on a, je pense, une dizaine, douzaine d'hôtels, de marché ultra luxe. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins leader sur ce marché en Europe. Mais il n'y a pas d'énormes structures, tu vois. Donc, on est en train de voir un petit peu ailleurs, pour des plus grosses structures. Donc, c'est un peu ça plus. Moi, je suis en train de me mettre un peu là-dessus. On est en contact avec quelques gros hôtels, etc. On est en pour parler avec plusieurs, etc. Donc c'est plus ça plutôt qu'avoir le nombre, tu vois. C'est plus avoir des plus grosses structures. Ça, c'est un peu la stratégie au niveau de l'hôtellerie. Et puis, ouais, elle est peut-être un petit peu titillée les États-Unis, ouais. Elle est titillée un peu là-bas, changer un peu de. Voilà, en Europe et en Asie, on a pas mal bossé. Continue, bien sûr. Maldives, c'est un gros marché pour nous aussi. Mais c'est d'aller voir un peu Caraïbes, États-Unis et des plus grosses structures. Et après, en termes de service aussi, il y a quelque chose qu'on met en place petit à petit aussi et qu'on va beaucoup plus structurer et qu'on va développer. Et qu'en fait, tu vois, on a les hôtels, mais on a aussi les clients privés.
Ouais.
Les clients, tu vois, qui aiment bien le tennis, qui ont de l'argent, qui voyagent dans les hôtels avec du tennis. Donc, on va essayer de s'occuper un peu plus d'eux maintenant, un peu du B2C. On est beaucoup B2B, tu vois, business to business avec les hôtels. Et on essaye un petit peu maintenant, on a une belle petite stratégie sur ça, pas mal d'idées et qu'on va mettre en place pour s'occuper un peu plus des clients. Tu vois, qu'ils puissent nous contacter et voilà, qu'on puisse leur offrir différents services.
Ça veut dire un produit clé en main, encore plus fourni qu'une leçon de tennis d'1 heure, quoi.
Bah, parce qu'on a d'autres services, tu vois, on a le service pendant le private coaching sur notre site aussi. Donc en fait, c'est un client, tu vois, je sais pas, il voyage à Paris pour le business ou pour les vacances pendant une semaine. C'est un fan de tennis, il a envie de jouer au tennis, il nous contacte. Est-ce que vous pouvez me trouver un coach à Paris et organiser mon. Ok, ouais, on s'en occupe, on le fait déjà. On a déjà une personne qui s'occupe de ça.
D'accord.
Et
OK.
donc, on a quasiment des emails tous les jours avec
Ah
des
oui.
clients qui nous contactent pour vous faire, voilà, surtout l'été, surtout l'été. L'été, quasiment tous les jours, après l'hiver, un peu moins. Mais tu vois, voilà, des clients riches qui voyagent pendant leurs vacances ou pour le business et qui ont envie de jouer au tennis. Que ce soit à Monaco, à Paris, je pense qu'on a une trentaine de destinations comme ça avec des coachs. Et on peut aussi n'importe où en fait, tu vois. Et on a eu des coachs là, je sais qu'on a, il s'appelle Gaëtan, il est très fort là-dedans. Il arrive à trouver aussi, voilà, on a une demande, je joue à Mykonos. On n'a pas de coach à Mykonos, on n'a aucune idée de Mykonos, pôle tennis. Bah, il va faire des recherches et il va se débrouiller pour trouver un bon coach avec un club, tu vois. Donc on offre déjà ce service aux clients, mais on a tout un panel de services qu'on a envie de mettre en place pour des clients privés. Donc les clients peuvent aussi nous contacter maintenant sur l'adresse réservation@luctennis.com et nous demander voilà, s'ils ont des questions par rapport au tennis, tu vois, s'ils ont des enceintes, donc ils veulent aller voir des tournois, ils ont envie de jouer au tennis avec des coachs, ils ont envie d'aller en hôtel de luxe, jouer au tennis, jouer avec des stars, etc. Mais on va le structurer, on va faire un vrai truc pour le B2C, ouais, bientôt.
Alors,
Ouais,
dernière question, toute personnelle pour les lecteurs, pour faire rêver les lecteurs du magazine Courte. Est-ce que tu es allé personnellement visiter les 32 ou 33 hôtels avec lesquels vous travaillez?
J'aimerais bien les avoir tous visités. Malheureusement, pas tous, pas tous. Mais entre moi et mon associé, on en a fait quand même, je dirais un bon 80% quand même. Donc c'est aussi l'avantage de ce métier, c'est vrai. Quand j'en parle à mes potes et tout, ils disent, t'as un métier de rêve et tout, tu peux voyager dans les hôtels. Donc ça, c'est vrai que c'est top, tu vois. J'étais comme je te disais avant, en off, j'étais en lune de miel. Là, il y a une semaine et on était aux Caraïbes avec ma femme sur deux beaux hôtels avec qui on travaille, tu vois, tout frais payé et tout dans des hôtels incroyables. Donc c'est vrai que ça c'est l'avantage, c'est qu'on peut voyager un petit peu. Après c'est pas all-in, hein. Il y a quand même dans les contrats, ça c'est une des plus belles clauses qu'on a négociées. Il y a pas si longtemps, au début on ne faisait pas. Maintenant on s'est mis des clauses dans les contrats comme quoi moi et mon associé on a le droit d'aller dans les hôtels X nuits par année gratuitement pour
Ah,
visiter
c'est bien
l'hôtel.
ça. C'est une bonne clause,
Donc,
effectivement.
donc c'est une belle petite clause, ouais. On en profite. Du coup, on peut en profiter un peu. Mais bon, c'est vrai que ça, on le fait passer sous un audit. C'est vrai que c'est un audit de vacances, quoi. Mais c'est vrai que c'est bien d'aller voir quand même la structure. C'est quand même important de voir, tu vois, comment ça se passe. En Europe, on y va plus régulièrement, tu vois. Mais c'est vrai que les hôtels qui sont à l'autre bout du monde, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais maintenant, avec les vidéos calls, etc., la vidéo, etc., on arrive quand même à bien bosser, même sans y aller.
En tout cas, j'engage ceux qui nous regardent et ceux qui lisent Courmag à aller sur le site Mix Tennis en attendant peut-être d'aller prendre des leçons de tennis dans les hôtels. Mais déjà, rien que sur le site, il y a que quelques belles photos qui permettent de, ouais, qui donnent l'eau à la bouche.
Voyager un peu, on va essayer de faire des belles vidéos là aussi à partir de 2023-2024, là 2024, c'est un peu l'objectif aussi de d'essayer d'être un peu meilleur sur le contenu
Ah
vidéo
oui,
parce que
ouais.
bah ouais parce qu'on a franchement on a c'est incroyable les hôtels, on les met pas assez en valeur, tu vois, on met juste une photo ou deux, on aimerait essayer de créer du contenu vidéo un petit peu, essayer de faire rêver et de donner envie d'y aller. Donc voilà, à partir de septembre il y a une nouvelle personne qui rentre dans la société et qui va s'occuper un petit peu un peu plus du marketing, de la com et justement qui va un peu chapeauter ce côté vidéo, etc. Ouais, je pense que c'est important.
Oui,
Mais
j'espère,
merci en tout
j'espère.
cas.
Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Merci Johan
Merci à toi, Rodolphe.
d'avoir
Un
pris le temps
plaisir.
de répondre à nos questions. C'est très sympa de pouvoir. Tu nous as fait un peu voyager
Avec plaisir.
dans les hôtels de luxe et on s'est imaginé aussi prendre une leçon de tennis avec quelques stars. Ça donne envie.
Bah merci en tout cas pour ton temps, c'était un plaisir de te rencontrer. Puis on se croise sûrement un de ces jours.
Bah ouais, avec
Avec grand
plaisir.
plaisir. Jeu, set et match.
C'était Pod Courtes, le podcast qui prolonge l'échange.